Trigger warning, cet épisode parle de violence.
Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Avec Kaoutar Archi.
C'est parti!
Suicide d'étudiantes, immolation par le feu, manifestations et mobilisation d'enseignants et d'enseignantes. Pendant que l'épidémie de Covid continue et que les amphis sont à moitié vides, une nouvelle loi destructrice pour l'enseignement supérieur et la recherche doit être examinée cet automne, la LPPR. Alors ça nous concerne, car c'est aussi là que se construisent les savoirs sur le genre qui nous intéresse. On va donc revenir sur la place des femmes et des minorités à l'université et faire un petit état des lieux des luttes avec notre représentante émérite de l'université, Kaoutar Archi. Salut.
Salut Clémentine.
Ça va?
Ça va très bien. Je crois qu'on n'a pas le choix, on est obligé de faire en sorte que ça aille bien. Et toi Clémentine, comment tu vas ?
Ça va, je me permets de faire une petite minute auto-promo pour un article que je viens de faire pour le magazine Cosette sur le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est donc la première cause d'infertilité chez les femmes et qui cause beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Voilà, j'espère que c'est un dossier qui, comme l'endométriose, va être mieux connu à l'avenir.
Et qui va sensibiliser effectivement les personnes qui sont concernées par cette question en leur donnant plein d'infos sur ce qui leur arrive et parfois on ne comprend pas.
Ouais.
Article à lire. Merci.
Merci. Alors, pour parler un petit peu des news féministes en bref, alors chez nous, le président Macron a ourdi son projet tant attendu contre les séparatismes. Alors, on aimerait bien comprendre un peu mieux de quoi il retourne et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus, peut-être dans un épisode.
Tout à fait.
Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle juge à la Cour suprême s'apprête à succéder à Ruth Bader Ginsburg, qui est donc décédée, et à être donc nommée, c'est la très réactionnaire Amy Coney Barrett.
Amy Coney Barrett est le choix privilégié des électeurs conservateurs. Elle a 48 ans et mère de 7 enfants, catholique, traditionnaliste. Elle a notamment été formée par un ancien juge conservateur de la Cour suprême.
Alors, pour plonger au cœur de l'actualité universitaire, où en est-on ? Alors, après les débats sur le déboulonnage des statuts, les questions décoloniales et les mobilisations contre les violences policières qui ont eu lieu à l'automne dernier, le président Macron avait accusé l'université, je cite, d'avoir cassé la République en deux. Rien que ça, en encourageant, je le cite encore une fois, l'ethnicisation de la question sociale. Voilà, comme si la question sociale était par définition neutre.
Oui, et puis surtout comme si c'était le fait d'en parler, le fait de poser des mots sur une réalité et sur des phénomènes qui créent le phénomène en question. Donc c'est évidemment une accusation qui est particulièrement grave et à laquelle notamment le sociologue Éric Fassin avait répondu jugeant que le président de la République, qu'on peut facilement qualifier d'admirateur opportun de Ricoeur en période électorale, nourrissait une forme assez vive et dangereuse de ce qu'on appelle d'anti-intellectualisme. Donc à cet égard, je vous conseille vivement la lecture ou la relecture de cet article d'Éric Fassin qui était paru dans les Inrocks et qui refait le point sur les stratégies politiciennes d'Emmanuel Macron et ses impacts plus que déplorables sur l'université et sur la vie des universitaires et des étudiants et des étudiantes.
Oui, c'était au mois de juin.
Exactement.
Dernier. Alors, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qui attend l'université ? Quelle est la prochaine étape dans le démantèlement de cette vénérable institution ? C'est la nouvelle loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, ou LPPR. Alors, cet acronyme a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est simple. 25 milliards d'euros sont prévus pour l'université sur 10 ans. En réalité, la plus grande partie de ces financements arrivera dans 10 ans, donc ce sera le fait d'un autre gouvernement. Et ce n'est pas un investissement inédit, comme le promet le gouvernement, mais il s'agit, encore une fois, de faire plus avec moins, c'est-à-dire de privatiser, d'avoir moins de fonctionnaires, mais plus de vacataires, des postes moins bien payés, plus de concurrence entre les universités, entre les enseignants et les enseignantes, et aussi de présenter des projets pour pouvoir être financés.
Exactement.
Alors Marie Sonnette, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université d'Angers et membre du comité de mobilisation Fac et Labo en lutte, l'a très bien expliqué sur France Inter, on l'écoute.
Les chiffres qu'on nous donne dans la LPPR nous semblent assez particuliers, c'est-à-dire que, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et en l'occurrence, ce que nous propose le gouvernement ici, c'est 224 millions dans la prochaine année. Et ensuite, effectivement, jusqu'à 2030, un certain nombre de milliards, dont la plus grande grande partie seront données en 2030, c'est-à-dire 3 milliards en 2030. Bon, c'est-à-dire que le gouvernement Macron, lui, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'engage pour ces 224 millions sous Emmanuel Macron, ce qui est une toute petite enveloppe pour la recherche, sachant qu'aujourd'hui, pour arriver aux 3% du PIB, il nous faudra 18 milliards d'euros pour arriver à pouvoir avoir une recherche à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir.
Alors, pourquoi tant d'hostilité? Pourquoi aussi peu de moyens? Explique-nous un peu la situation qu'il y a autour.
Alors, la situation, elle est très, très compliquée et en même temps, elle participe d'un mouvement qu'on connaît plutôt bien, qui est la soumission du service public à des logiques néolibérales. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un premier point en disant que d'ordinaire, on se figure l'université comme ce qui prolonge simplement, naturellement, l'étude à un niveau supérieur. Or, il me semble assez important de dépasser cette première vue pour pas venir à voir ce qu'est effectivement l'université, c'est-à-dire une institution sociale de formation et de production des savoirs intellectuels. Et même sur cette question de la mission et de la fonction sociale des universités, il y aurait beaucoup à dire et il y a souvent des débats qui resurgissent pour essayer de préciser davantage les choses. On pourrait dire que depuis à peu près 20 ans, on observe, pour reprendre notamment le titre de l'ouvrage de l'historien Christophe Granger, on assiste à la destruction de l'université. Plus précisément, dans son ouvrage, l'historien écrit « Économie du savoir ». C'est sur cette notion que s'est enclenchée la débâcle actuelle de l'université. Le Conseil européen l'a dit en 2000, l'université doit faire naître, entre guillemets, une économie de la connaissance compétitive, facteur d'une croissance durable. La Banque mondiale, de son côté, préconise de privatiser le financement des universités, de démanteler les rigidités salariales et d'ajuster la formation des étudiants aux besoins du marché du travail et d'encourager la production de savoirs porteurs de débouchés commerciaux et d'innovations industrielles. Encore un peu plus loin, Christophe Granger toujours précise « Désormais, les universités sont contrôlées par des conseils d'administration où siègent des patrons et des cadres de grandes entreprises. Les enseignements sont des offres de formation ajustées aux besoins du marché du travail. Les recherches sont financées sur appel d'offres en fonction des intérêts économiques privés. Désormais, dans une opacité voulue, la précarité s'est généralisée. Par dizaines de milliers, les enseignants-chercheurs sont contractuels, postdoctorants sans poste, auto-entrepreneurs vacataires payés à l'heure, chômeurs déguisés, voire travailleurs au noir.
Franchement, ça fait froid dans le dos.
Ça fait froid dans le dos, et malgré la longueur du passage, je pense que c'était important de le signifier, de le faire entendre, puisque ça résume assez bien la profonde catastrophe qui est déjà survenue et qui ne cesse de survenir au fur et à mesure des réformes et des lois qui visent directement l'université et qui visent bien, et c'est quelque chose qu'on va voir progressivement dans cet épisode, qui visent d'une certaine manière à reconfigurer, voire à transformer complètement la mission sociale de l'université en rêvant d'une sorte d'université sans étudiants. Et qui ne serait du coup plus commun des différents actionnaires, professionnels, membres du marché économique, etc. Et on peut redire encore une fois que c'est une profonde catastrophe qui touche effectivement l'ensemble de la société.
Oui, surtout le savoir n'est plus une fin en soi, là c'est vraiment un moyen. C'est ce qu'on comprend dans cette espèce de novlangue capitaliste assez effrayante en fait.
Exactement. Un autre point qui me semble important à ajouter, c'est de dire qu'effectivement, cette destruction de l'université, elle ne fera pas égalitairement les individus. Les individus sont tous touchés, mais de manière et selon des degrés différents. Effectivement, on peut considérer que les femmes, en ce sens, sont dans une situation spécifique que l'histoire peut ici clairement nous aider à comprendre. Clémentine, je te laisse nous dire quelques mots de cette histoire.
Oui, alors évidemment, il faut contextualiser l'apport des femmes à l'université, puisque par exemple, au 19e siècle, on avait ce qu'on appelle un enseignement féminin, qui était évidemment allégé, puisqu'on préparait les filles à être d'abord de bonnes épouses et de bonnes mères. Et donc, logiquement, l'accès des femmes à la fac s'est fait sur le tard, donc dans les années 1870. Enfin, je dis sur le tard, en fait, c'est plutôt précoce par rapport à nos voisins européens, mais c'est un accès qui est resté assez limité, puisqu'en 1871, on comptait seulement 25 étudiantes à Paris, c'est quand même très peu, et ces pionnières étaient souvent d'origine étrangère, et souvent dans les disciplines scientifiques. Donc par exemple, c'était des étudiantes en médecine qui venaient de Russie. C'est ce que note le chercheur Roland Pfefferkorn dans la revue Raison présente. Il écrit « Partout, l'entrée des étudiantes dans les universités se heurtera à de nombreux obstacles, à la fois institutionnelles et idéologiques qui ont directement à voir avec l'ordre social patriarcal dominant. Mais la discrimination reste presque totale au niveau de l'accès à la fonction professorale dans les facultés entre 1880 et 1914, et il faut attendre les années postérieures à la Seconde Guerre mondiale pour voir une réelle ouverture. En gros, la seule personne qui va arriver, en tout cas, à devenir prof à cette époque, c'est Marie Curie. Et avec quelle difficulté.
Albert Einstein, Marie Curie.
Vous êtes la meilleure parmi les femmes.
Et aussi parmi les hommes.
En tout cas, être étudiante, ça reste très mal vu. D'ailleurs, dans le dictionnaire, on pouvait lire à l'époque, donc le terme étudiante au féminin, dans une espèce d'argot, signifie grisette du quartier latin. C'est-à-dire qu'en fait, l'étudiante n'existait pas. C'était simplement une définition péjorative d'une fille aux mœurs légères. Donc ce n'était pas quelqu'un qui suivait des cours, mais quelqu'un qui couchait avec un étudiant. Voilà, donc ce qu'on appelait à l'époque une cerveline.
C'est vraiment intéressant parce que cette période de l'histoire, si on l'observe d'un point de vue, on pourrait dire, plus artistique ou plus intellectuel, c'est effectivement la grande période de l'hostilité intellectuelle et scientifique aux femmes. Et si traiter les étudiantes de grisettes, comme tu nous le dis, Clémentine, les écrivaines, ou en tout cas les femmes qui aspiraient à l'époque à écrire, elles étaient traitées de bas bleus. Mmh. Donc on voit bien ici à quel point il y a une sorte de structure misogyne absolue qui s'abat sur toutes les femmes qui sont désireuses de s'approcher, voire même de produire du savoir.
Mmh. Oui, et d'ailleurs, jusque dans les années 70, quand des étudiantes prenaient la parole en amphi, elles pouvaient entendre des cris comme « à poil », donc voilà, une certaine violence symbolique. Alors aujourd'hui, les étudiantes sont majoritaires, elles constituent un peu plus de la moitié des étudiants et des étudiantes. Et
effectivement, année après année, on peut, Clémentine, recenser les politiques, les textes de loi, les réformes qui ont visé à instituer l'université, on pourrait dire, sous une forme détruite et accablante.
Oui, alors évidemment, il y a eu les soulèvements de mai 68.
Les structures de l'université ne nous satisfont pas. Elles ne correspondent absolument plus à la société actuelle. Et cette société actuelle ne correspond absolument plus aux besoins de l'avenir.
Mais ensuite, il y en a eu beaucoup, on va les récapituler très rapidement. En 1973, il y a eu la loi Debré et donc le DEUG, la sélection à l'université. En 76, a eu lieu la plus longue grève étudiante, puisque le but était de professionnaliser la fac. Donc on y était déjà à l'époque, c'est quand même intéressant de le noter que tout cela ne sont pas des phénomènes récents.
Exactement.
En 1986, il y a eu la loi Devaquet qui a provoqué une levée de bouclier avec la sélection à l'entrée de l'université et la mise en concurrence des universités. En 2003, il y a eu la loi LMD, donc licence, master, doctorat. En 2005, le CPE. En 2017, la LRU, donc la loi d'autonomie des universités dans les domaines budgétaires et la gestion de leurs ressources humaines. En 2018, l'ORE, donc l'orientation et la mise en place très contestée et encore très difficile de Parcoursup.
Parcoursup fait pire qu'APB parce qu'il laisse beaucoup plus de candidats dans l'incertitude à 10 jours de la rentrée.
Et voilà où on en est aujourd'hui.
Et on voit que, historiquement parlant, ces réformes, elles sont assez rapprochées les unes des autres, ce qui laisse véritablement apparaître cette espèce de volonté politique de plus en plus assumée, de grignoter les différentes fonctions émancipatrices que l'université a pu recouvrir en une certaine époque, et comment effectivement on est actuellement dans une sorte de période d'accélération très forte de cette destruction et de cette mise sur le marché de l'université avec tous les dégâts que cela entraîne.
Oui, et tout en tenant vraiment un double discours et sans jamais assumer réellement ses objectifs, donc en prétendant continuer à financer durablement l'université.
Oui, et puis on peut d'ailleurs se souvenir de ce slogan des plus cyniques qui touchait notamment à la réforme des frais de scolarité des étudiants étrangers, slogan qui était « Bienvenue en France ». Donc on voit ici comment une réforme raciste, profondément néolibérale, profondément marquée par la volonté de favoriser des accès inégalitaires des étudiants à l'échelle internationale à l'université, peut malgré tout se prévaloir d'une forme d'accueil positif, bienvenue en France, bienvenue dans nos universités, alors qu'en pratique, c'est bien évidemment des portes fermées qui attendent les 10 étudiants. Mmh. Donc une chose mérite par ailleurs d'être énoncée assez clairement, il me semble, c'est que les politiques de destruction de l'université sont des politiques de destruction des vies, des individus qui font vivre l'université. Il suffit à cela d'être attentif à l'actualité de ces derniers temps pour s'en convaincre.
Oui, on rappelle qu'en novembre dernier, pour ne donner que deux exemples, un jeune étudiant lyonnais avait tenté de s'immoler par le feu pour dénoncer ses conditions de vie précaires. Donc voilà, quand on met en jeu le corps, c'est qu'on a vraiment plus d'autres ressources. Mmh. Et récemment, c'est une étudiante trans, Douna, à Montpellier, qui s'est suicidée après avoir été menacée d'expulsion par le Crous. Crous qui donc continue à nier les faits.
C'est assez terrible dans ces événements dramatiques de voir à quel point on a vraiment affaire à des individualités isolées qui doivent affronter la quasi-entièreté des forces sociales qui traversent l'université dans leur plus grande violence. Moi, c'est ça qui à chaque fois me frappe. C'est de voir véritablement ici comment il y a une forme d'acharnement symbolique violent sur des êtres isolés qui, à un moment donné, effectivement, sont tout entièrement, sont complètement pris dans la logique universitaire et complètement soumis à son pouvoir. Mmh. On ne peut qu'avoir une pensée émue pour ces jeunes étudiants. Un autre élément qui nous intéresse ici en particulier, c'est bien évidemment la vie des femmes à l'université. Je disais auparavant que l'université détruit des vies. Ces vies sont souvent des vies féminines. Et effectivement, il y a des violences sexistes, des violences sexuelles, comme dans tout lieu de pouvoir, comme dans toute institution sociale, qui sont remarquables.
Oui, on s'est beaucoup demandé si certaines catégories sociales étaient épargnées justement par ces violences. Le cas de l'université prouve que non, justement. Alors, on s'est aussi demandé où en était le MeToo de l'université, puisqu'il y a eu des dénonciations, notamment sur les Tumblr SupToo et en utilisant le hashtag SupToo, et cela grâce au travail du CLASH, le collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. On s'est rendu compte, et ce n'était pas une grande nouvelle, que le harcèlement et les violences avaient un effet sur le recrutement, sur le financement, sur les promotions, et que pour l'instant, cela dysfonctionne toujours au niveau des sanctions dans les universités. D'ailleurs, Libération avait aussi recueilli les témoignages de 16 femmes victimes déclarées de harcèlement, d'agression sexuelle et même de viol de la part de dirigeants de l'organisation étudiante LUNEF.
Tout à fait.
Donc le syndicat étudiant entre 2007 et 2015.
16 militantes racontent pour la première fois comment des dirigeants du syndicat auraient abusé d'elles. Des pratiques longtemps passées sous silence. Il s'agit donc de témoignages de viol, d'agression ou de harcèlement qui surgissent une fois plus dans le sillage de l'affaire Weinstein aux États-Unis. Et dans cette libération de la parole, les militantes racontent des années de sexisme. Marion, par exemple, dénonce une direction où les hommes pensent et les femmes organisent. Une présidence est particulièrement mise en cause, celle de Jean-Baptiste Prévost, de 2007 à 2011. L'UNEF devient alors un terrain de chasse sexuelle, c'est ce qu'écrit le quotidien. Côté face, Prévost court les plateaux de télévision pour défendre la cause étudiante et faire campagne contre la droite. Côté pile, eh bien, l'homme pioche des numéros de téléphone dans les fichiers du syndicat pour multiplier les relations sexuelles. C'est bien ce qu'écrit Libération. Confidence d'Élodie Lemoigne, qui était ex-présidente de l'UNEF à Paris 13. Les week-ends régionaux de formation, c'était le supermarché.
Et dans une lettre ouverte à Mediapart, des centaines d'universitaires s'alarmaient et notaient, je les cite, « Nos établissements sont des espaces où les circonstances aggravantes d'abus d'autorité et de dépendance sont au cœur même des fonctionnements institutionnels. La personne qui les dénoncera courra le risque d'être privée de toute chance d'avoir une carrière académique. » Voilà, on rappelle qu'on est quand même censé être dans le service public, donc tout va bien. Et pour donner peut-être un exemple plus précis, cet été, une doctorante de l'université de Lorraine a mis fin à ses jours en mettant, entre autres, en cause l'attitude de son directeur de thèse et plus récemment une autre de ses anciennes doctorantes et une camarade de cette jeune fille décrivaient sur Medium leur relation, je mets d'énormes guillemets puisqu'il s'agit en fait d'une relation abusive, et la manière dont cet enseignant a pu développer son emprise sur ses étudiantes. Peut-être tu peux nous lire un extrait de ce texte.
Oui, tout à fait. Le chantage affectif, les gestes ou propos hors limite que vous acceptez néanmoins tôt ou tard, la perspective d'être abandonné étant bien plus terrible que celle de céder à la fin d'une scène durant laquelle on vous a reproché de dire non à une main un peu trop baladeuse, de mettre une photo de profil vous représentant avec votre conjoint, ou encore de prétendre boire un verre avec vos camarades à la fin des cours alors qu'il avait prévu ce créneau chaque semaine spécialement pour vous. Vous vous faites enfermer, prétendument sans qu'il y pense, dans une image de duo qu'il entretient férocement, en chuchotant à grand bruit devant la promo entière un compliment déplacé, en vous demandant devant elle si vous allez bien, en plein cours, ou pourquoi vous n'avez pas pensé à son café à lui quand vous revenez de la machine après la pause. Ils se séparèrent durant des années de doctorat. Je n'ai pas été encadrée, pas présentée, je n'ai pas été soutenue, j'ai été maltraitée. J'accuse, monsieur, 6 ans après le début de toute cette histoire, de harcèlement moral, de violence psychologique et d'abus de son pouvoir et de sa position hiérarchique, et ce, notamment, et dans les cas les plus graves, pour mettre sous emprise des jeunes femmes vulnérables. Je trouve que ce passage, il est vraiment très, très fort, et cela amène notamment à préciser quelque chose par rapport à l'université, qui concerne aussi d'autres univers professionnels, mais qui est peut-être encore plus prégnant ici, c'est qu'on est dans un univers de la réputation. Alors, je sais bien que le terme « réputation », c'est souvent un terme qui, en raison de sa connotation négative, renverrait à quelque chose de l'expérience de ce qu'on appelle les banlieues, des cités, des grands frères qui font des mauvaises réputations à leurs sœurs, etc. Donc on a ici une acception du terme réputation qui est des plus ethnicisés et qui touche véritablement à une certaine forme de stigmatisation des modes de vie populaires. Mais en vérité, on se rend compte que les champs élitistes, élitaires, ici l'université en particulier, est elle aussi complètement traversée par une logique de la réputation. On ne cesse d'avancer au fur et à mesure de sa carrière avec autour de soi de potentiels futurs recruteurs masculins. Donc il y a une sorte de rapport de pouvoir constant qui s'incarne en des éléments complètement ordinaires. Ici, le passage que je lisais en est la preuve, mais aussi en des rapports de pouvoir beaucoup plus structurels, beaucoup plus amplifiés, et qui peuvent, par exemple, pour une jeune femme, se cristalliser dans le cadre d'une audition pour une nomination en tant que maîtresse de conférence. Et tout d'un coup, l'un des hommes présents dans ce comité peut être un homme avec lequel il s'est jadis passé des choses qui sont susceptibles de jouer contre la jeune femme en question. Donc on voit bien ici l'intrication des rapports de pouvoir à l'échelle micro-ordinaire, à l'échelle microscopique, mais cette échelle microscopique, elle est bien due à des effets structurels complètement accablants pour les individus en question et les femmes en particulier.
Oui, surtout ce qui peut jouer contre les femmes, c'est qu'il se soit passé quelque chose ou qu'il ne se soit rien passé.
Exactement.
Donc dans les deux cas, on est vraiment la proie, quoi, de
ces hommes.
Et d'ailleurs, on voit vraiment à quel point ces mécanismes sont intériorisés. Quand on voit le déni et la réaction de l'université de Lorraine qui a d'abord critiqué les réseaux sociaux qui s'étaient appropriés cette affaire. Alors depuis, cet enseignant a été suspendu, mais de manière conservatoire. Donc ce qui est vraiment une manière de ne pas se mouiller. Voilà, en tout cas, on suivra cette affaire de près. Donc évidemment, à l'université, le groupe majoritaire des hommes bénéficie, on le voit bien, de l'exploitation de dominés. C'est d'ailleurs ce que des féministes matérialistes comme Colette Guillaumin ont mis en lumière dans leurs travaux, la manière dont la force de travail des femmes était exploitée, y compris la force de travail des femmes à l'université. Donc l'appropriation, la captation, la spoliation des écrits, l'invisibilisation des chercheuses. Et d'ailleurs, dans le domaine des sciences, ça a un nom, c'est l'effet Matilda, et c'est l'universitaire américaine Margaret Rossiter qui avait inventé ce terme pour parler de l'occultation, du déni, du vol, de la minimisation de la contribution des femmes à la recherche et à des découvertes qui sont souvent attribuées à des collègues masculins.
L'effet Matilda, c'est un concept sociologique qui analyse la tendance des hommes à s'attribuer les inventions des femmes. En gros, depuis très longtemps et quasiment systématiquement, on minimise le rôle des femmes dans la recherche scientifique. En fait, les femmes qui font avancer le monde sont injustement invisibilisées.
Donc voilà, à l'université comme ailleurs, les femmes sont à la fois utilisées comme des vitrines, comme des produits d'appel, tout en étant soumises à des formes de régulation et de sanction.
Effectivement, cette notion d'instrumentalisation des femmes, elle est très forte. On pourrait aussi ajouter qu'à ces inégalités de genre à l'œuvre dans les différentes dimensions de l'université s'articulent à d'autres formes d'inégalités, parmi lesquelles on peut notamment signaler effectivement les inégalités de race. Mmh. Une dimension en particulier ici m'intéresse, sur laquelle j'ai pu travailler, sur laquelle j'ai pu écrire, c'est notamment la situation des chercheurs au féminin racisés, auxquels on reproche souvent un manque d'objectivité dans leurs travaux et sur lequel va peser des formes de soupçons de militantisme larvé. Ces éléments, ils peuvent véritablement être compris comme des formes de mise en procès des chercheurs, mise en procès de leur légitimité scientifique, dont le travail, qui est pourtant continuellement soumis au jugement de leurs pairs, dans le cadre de revues scientifiques, par exemple, est véritablement perçu comme étant non adéquate, non concordant avec la norme scientifique par excellence en vigueur, qui est une norme scientifique masculine, bourgeoise, hétérosexuelle, eurocentrée. Donc ce phénomène, il a été mis en lumière notamment par un texte rédigé par un collectif, le collectif LKJ, et intitulé « Vos astérisques sont trop étroits pour nos vécus à propos du racisme dans l'enseignement supérieur et la recherche en France et de son déni ». Et le collectif écrit notamment « Être racisé lorsqu'on est étudiant-étudiante, c'est ainsi affronter un déni de sérieux de la part des enseignants-enseignantes, subir le soupçon de mener des études alibi pour avoir un titre de séjour en France, et ce, quelle que soit notre nationalité, de la part des personnels de l'université, ou encore se voir opposer des interdits thématiques de la part des encadrants-encadrantes. Lorsqu'on est enseignant-chercheur, c'est faire face au déni de scientificité de la part des étudiants et des collègues. Dans tous les cas, c'est être régulièrement rappelé à notre écart présumé vis-à-vis du lieu situé d'énonciation du savoir scientifique fondé sur la norme de neutralité et d'objectivité qui ouvre la voie à la distinction entre recherche légitime et recherche illégitime. Renvoyer aux stéréotypes de genre et racialiser de l'émotivité dans certains cas, du militantisme dans d'autres, les étudiants, enseignants et chercheurs racisés sont sans cesse discrédités, et ce, dans le but de garantir aux groupes majoritaires des positions de savoir et de pouvoir privilégiés. Voilà, le texte est particulièrement fort. Je vous conseille vivement de le lire si vous ne le connaissez pas encore. Cela vous donnera une sorte de tableau très précis de ce que représente vivre l'université au quotidien lorsqu'on est un homme ou une femme racisée, et ce, quelles que soient les positions professionnelles occupé.
Oui, c'est d'autant plus intéressant que les arguments de l'émotivité et du militantisme sont vraiment utilisés à toutes les sauces,
tout à
comme
fait.
Des discours excluants, en fait. Il suffirait de manière un peu mécanique d'apposer ces arguments-là pour mettre fin, en fait, à toute conversation.
Et puis, je trouve que ça pose vraiment la question de la neutralité. Qui est neutre et qui n'est pas neutre? Et effectivement, cette idée-là aussi de neutralité, de pureté, de la science pour la science, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les argumentaires antiféministes anciens ou plus contemporains.
Oui, c'est un argument d'autorité qui occulte complètement le fait que cette neutralité est aussi historiquement construite et que donc il faut l'interroger. Pour donner aussi quelques exemples de la manière dont les problématiques racistes innervent aussi l'intérieur des universités, y compris dans les rapports entre les étudiants et les étudiantes, on rappelle que la conférence des doyens des facultés de médecine dénonçait ces dernières années des actes antisémites en recrudescence, ce qui est particulièrement inquiétant. Et un autre exemple parmi tant d'autres, on a découvert l'an dernier, en 2019, un groupe de discussion privée sur un réseau social entre des étudiants et des étudiantes en sociologie, ce qui est quand même un comble, évoquant d'autres camarades noirs,
oui,
et en parlant, comme je cite, des singes et des bonobos. Voilà, c'était à l'université de Lorraine, décidément, tout ça est assez alarmant. Et alors, plus récemment, à la Sorbonne, des étudiants, des étudiantes et des associations ont protesté contre les déclarations vraiment honteuses d'un professeur de droit qui associait l'homosexualité à la zoophilie. Donc ça, c'était lors d'un cours diffusé en vidéo sur les réseaux sociaux. Il faut bien rappeler que l'université n'est pas exempte de ces biais et de ces discours homophobes et transphobes. Et alors, pour parler un peu de notre expérience, puisque toi, tu es enseignante chercheuse, Kaouta, Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors justement, je trouve que c'est un point qui est très intéressant et que tu soulèves, c'est de dire effectivement à quel point la question universitaire, elle est complexe. Elle est complexe pour moi à traiter pour un élément simple qui est que c'est une grande partie de ma vie en fait. L'université, c'est quelque chose sur lequel j'ai projeté beaucoup de choses, des formes d'espérance en termes d'émancipation, d'élévation intellectuelle, si l'on peut dire. Voilà, je pense que le rapport que j'ai à l'université, il est très très médié par mes propres propriétés sociales de femmes jeunes, plutôt issues des fractions populaires, potentiellement identifiées favorablement ou défavorablement comme femmes arabes. Donc, disons que j'ai un rapport à l'université qui est assez équivoque, qui est assez ambivalent. Mais je pense que il y a presque un livre à écrire sur cette question-là, en fait. C'est quelque chose que je ressens assez régulièrement. Mais je crois que c'est une institution à l'égard de laquelle c'est important de faire un travail de déconstruction, voilà. Et comme j'ai, je pense, participé dans ma propre vie à déconstruire beaucoup de choses, voilà, mon rapport à l'université, c'est un rapport qui se construit et qui se déconstruit au fur et à mesure des périodes, des expériences, des ambitions, des réussites, des échecs. Donc voilà, c'est un rapport qui est très ambivalent. Et puis c'est un rapport à l'égard d'une institution qui dicte ses règles, qui produit constamment des formes de rappel à l'ordre. Donc voilà, tout cela entre en ligne de
compte. On sent que tu es un peu déchanté quand même, ce qui est normal.
Je pense qu'effectivement, tu as complètement raison d'utiliser le terme déchanté. Je pense que c'est important. C'est quelque chose que je redis souvent à tel et tel endroit, mais je crois profondément en la force de la lucidité. Je pense que c'est très important de comprendre où on est, de comprendre où on se situe, de comprendre où est-ce que l'institution universitaire a naturellement tendance à nous situer pour essayer d'augmenter nos marges de manœuvre, en fait, pour essayer de gagner en agentivité, en esprit stratégique, pour au final parvenir malgré tout à faire ce qu'on aime, faire de la recherche, écrire des articles, participer à des colloques, des conférences, enseigner. C'est des choses qui sont pour moi porteuses à chaque fois d'un grand plaisir et d'un grand sens de ma vie. Donc disons que j'essaye de protéger ça. Voilà, j'essaye de conserver des espaces de joie pour qu'ils ne soient pas trop assaillis par les violences. Et c'est un travail quotidien, évidemment.
Ça résume bien l'année 2020.
Je crois aussi. Et toi, Clémentine, quel est ton rapport à l'université?
Alors moi, je crois que j'étais tellement mal informée, par exemple, quand j'étais au lycée. Déjà, je ne savais pas ce que c'était Normal Sup. On m'avait proposé de faire une classe prépa. Je ne comprenais pas ce que c'était. Je ne savais pas à quoi ça servait. Voilà. Et en fait, je pensais que l'université française était comme dans les films américains. C'est-à-dire qu'il y avait des campus, des dortoirs, de l'argent, des pelouses.
Et des longs couloirs et des casiers.
Exactement. Ouais. Et donc, vraiment, j'ai vécu dans un monde parallèle. Et donc, quand je suis arrivée à la fac, qui était en fait un préfabriqué sans chauffage, j'ai vraiment, moi aussi, un peu déchanté. Enfin, le principe de réalité m'est un peu revenu en pleine face. Après, je dois dire que en tant qu'étudiante blanche, j'ai été assez préservée ou assez aveuglée face aux problématiques de sexisme et de racisme à l'université. En fait, c'est des problématiques qui m'ont surtout sauté aux yeux dans le monde du travail. Moi, j'ai été toujours dans des formations très féminines en lettres. Et en plus, j'ai eu pour mentor une femme, une prof de philo qui m'a aidée pendant des années à avancer. Et aujourd'hui, j'ai repris des études et je fais donc un master de genre, un M2, qui est à distance. Voilà, ce qui peut être problématique, mais quand on travaille, c'est quand même plus simple. Et puis cette année en particulier, ça a l'air plutôt indiqué, même si j'espère que ce ne sera pas l'avenir de l'enseignement supérieur que d'être à distance, parce qu'il faut faire du présentiel. C'est important. Voilà, après, moi, j'ai étudié aux États-Unis avec une bourse, je tiens à le dire. Et en fait, j'ai un rapport assez ambivalent aux études que j'ai faites là-bas. Bah, d'abord, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment mieux qu'en France. J'ai notamment découvert toutes les questions de genre, les questions postcoloniales, qui était abordé de manière tout à fait normale sans qu'il n'y ait aucun débat. Mais évidemment, ces universités sont privées, elles sont très chères, donc c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner. Voilà, sinon quand j'étais à la fac, j'avais une camarade qui sortait avec l'un de nos profs très vieux. Et j'ai bien vu comment ce modèle-là, qui date du code Napoléon, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les femmes seraient matures plus tôt et donc peuvent se marier plus jeunes, et c'est donc le modèle de la femme cadette et de l'époux aîné, peut se perpétuer en fait encore aujourd'hui dans les amphithéâtres. théâtre, quand on voit l'admiration que peuvent avoir certaines femmes plus jeunes pour un homme lettré, plus âgé. Voilà comment ça fonctionne. Mais voilà, sinon, moi, je suis aussi entourée de jeunes profs et d'universitaires qui galèrent, qui sont nommés très loin, qui sont très mal payés et pour qui l'enseignement n'a pas plus beaucoup de sens, en fait. Comme toi, je partage le constat que tout ça est assez inquiétant.
Ouais.
Alors, on va écouter un témoignage qui nous est parvenu sur une expérience à l'université. On l'écoute.
Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en sociologie à Paris, à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Je me suis spécialisée en études sur le genre à l'EHESS, où je viens de valider mon master. Mon expérience de la culture sexiste dans l'enseignement supérieur, je pense qu'elle existe depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai eu mon bac. À l'époque, j'étais pas forcément suffisamment bien renseignée pour arriver à poser le doigt sur ce qui était sexiste ou ce qui ne l'était pas. Mais aussi loin que je me souvienne, ça a toujours existé. Ça peut aller de remarques sexistes de professeurs, de camarades, de l'impossibilité de sortir de ce statut inférieur qu'on t'assigne lorsque tu es une personne perçue comme femme. Ça va de cette incertitude que je pouvais avoir lorsque j'avais une bonne note en colle, de savoir si c'était parce que j'étais véritablement talentueuse et que j'avais bien révisé, ou si c'était à cause de ma mini-jupe que je portais ce jour-là. Finalement, l'épisode qui m'a véritablement mise en colère à propos de la culture sexiste à l'université, c'est lorsque l'un de mes camarades de classe, dans ma promo de l'École normale supérieure Paris-Saclay, m'a violée. C'était un camarade avec qui je m'entendais très bien. Il était raisonnable de dire que c'était un ami. C'était même un peu plus qu'un ami, puisque nous avions des relations sexuelles régulièrement, qui, je m'en rends compte après coup, faisait déjà de cette relation une relation un peu abusive. Sous les auspices de cette relation pas très saine, un jour, une nuit plutôt, arriva où je n'avais pas envie de coucher avec cet homme, mais il n'a fait peu de cas de mon refus, et donc m'a violée. C'était un traumatisme assez énorme, car je considérais ce mec comme un de mes amis les plus proches, et je lui faisais une confiance aveugle là-dessus. Malgré nos relations qui n'étaient pas très saines, toujours très saines, je n'aurais jamais pensé qu'il était capable de ne pas écouter lorsque je lui disais non. Cet épisode m'a mis une énorme claque. D'abord parce que je me suis rendu compte que vraiment on ne pouvait faire confiance à personne. En tout cas, à aucun mec cis. Que personne n'est irréprochable. Et que l'impunité des mecs a encore de beaux jours devant elle. Mais surtout, je me suis rendu compte que tout cela me paraissait complètement impensable dans la mesure où nous étions tous les deux normaliens. L'École normale supérieure, c'est prestigieux, c'est l'élite de la nation, c'est des gens intelligents qui savent réfléchir par eux-mêmes, qui sont tous plutôt de gauche en général, surtout en sciences sociales, qui doivent savoir normalement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'abus et ce qui ne l'est pas. Et pourtant, malgré le fait que les violences sexuelles soient complètement invraisemblables, dans ce genre de cadre prestigieux et élitiste, c'est arrivé. Je me suis rendu compte que j'avais beau être déjà à l'époque très militante, déjà au courant de plein de choses, avec ce sentiment d'être un peu immunisée parce que je savais ce qui était un viol et ce qui ne l'était pas. Je connaissais les mécanismes du consentement et d'à quel point ça peut être difficile de dire non. Et j'avais l'impression qu'en sachant tout ça, j'étais immunisée. Mais pas du tout. J'étais tombée dans le piège. C'était dur à accepter, dur à encaisser. Et surtout, je me suis aussi rendu compte que je ne savais pas à qui m'adresser à l'ENS. J'avais vaguement vu quelques affiches collées un peu partout dans les locaux, des petites affiches percutantes, avec marqué les violences sexuelles ne s'arrêtent pas à la porte des grandes écoles ou à la porte des établissements ou des choses comme ça. Je ne savais quand même pas à qui il fallait s'adresser. À ce moment-là, j'étais démunie. Au sein de ma promo, je n'ai jamais rendu public les agissements du type. Je l'ai confronté, lui. Il a fait face à ma confrontation avec un petit peu de mauvaise foi, beaucoup de mauvaise foi. Je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler. Il s'est ostracisé du groupe tout seul. Personnellement, je ne sais pas ce qui devient. J'en ai parlé à mes amis proches de la promo. Il me semble que la nouvelle s'est répandue parmi les gens dont je suis moins proche, mais je n'en suis pas certaine. En tout cas, je n'en ai plus jamais entendu parler. Je n'ai jamais signalé à l'ENS le comportement de ce camarade. Peut-être par manque de courage, ou par volonté de laisser cet épisode derrière moi. Et peut-être aussi, comme je le disais, parce que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas à quelle porte frapper pour rendre cette histoire audible. Et pas seulement... Enfin, la faire sortir de la sphère... des disputes intimes. Comme je savais qu'il partait à l'étranger et que je ne le reverrais de toute façon pas dans l'enceinte de l'ENS, c'est peut-être aussi ça qui a fait que je n'ai pas vu l'utilité d'en parler à l'administration. Rapidement, mon traumatisme s'est transformé en colère. Une colère sourde contre lui, contre l'impunité des hommes qui violent et contre la manière dont les établissements d'enseignement supérieur nous laissent sans aucun filet de sécurité lorsque pareille chose nous arrive. La colère, ça brûle fort. Il était devenu vital pour moi de faire quelque chose de toute cette colère. Si ce n'était pas signaler l'histoire à mon établissement, ça allait être apporter ma pierre à l'édifice de la réflexion globale sur la manière dont on peut améliorer la situation dans les établissements. Et si ce n'était pas mon établissement, ce seraient d'autres établissements. C'est alors que j'ai commencé un mémoire de sociologie sur le traitement des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur.
Merci pour ce témoignage.
Le moment.
Pop
culture.
Pop culture.
Pour parler un peu de pop culture et d'abord peut-être de culture classique, il faut rappeler que dans la littérature du 19e siècle, l'étudiant, puisqu'il est toujours au masculin, est un personnage souvent en quête d'ascension sociale, un personnage désargenté. On le voit chez Balzac, chez Zola, on parle donc plutôt de conditions sociales, d'une forme de prolétariat intellectuel dans le genre qu'est le roman d'apprentissage. Ce sont donc souvent uniquement des hommes et pour les femmes, les rares femmes, il y a notamment Petroni Fanto, qui est l'héroïne du roman éponyme d'Amélie Nothomb en 2014 et qui fait un master en littérature élisabéthaine. Quant au cinéma, on a souvent assisté à une représentation un peu à la fois romantique et condescendante, puisque les étudiants et les étudiantes ne seraient pas des membres productifs de la société, mais plutôt des vieux adolescents traînes savates. Voilà, il y a donc pas mal d'anti-intellectualisme aussi dans ces représentations. Moi, je pense notamment à un film qui est L'étudiante avec Sophie Marceau, qui est une sorte de suite de La Boum, dans lequel Sophie Marceau prépare l'agrégation de lettres sur le thème de l'amour, d'où cette tirade inoubliable.
Je prends le risque de vous parler de l'amour et de l'amour propre aujourd'hui, c'est parce que rien n'a changé et qu'il est aussi difficile qu'au XVIIe siècle de concilier l'amour et l'épanouissement personnel.
Évidemment, le film parle davantage de sa relation amoureuse avec Vincent Lindon que du contenu de ses études. Heureusement, aux États-Unis, le personnage de Elle Woods, joué par Reese Witherspoon avec beaucoup de panache, a vraiment sauvé la mise dans le film La Revanche d'une Blonde, puisqu'on voyait une lycéenne écervelée qui est souvent prise pour une idiote et qui va finir par intégrer l'école de droit à Harvard.
You're not smart enough, sweetie.
I'll show you how valuable Elle Woods can be.
Effectivement, et puis on peut aussi penser, dans ce domaine de la pop culture, à La Belle Saison de Catherine Corsini, avec notamment Cécile de France et Izzy Higelin, qui montre le militantisme féministe étudiantin, et on voit notamment des étudiantes de la Sorbonne qui font partie du mouvement de libération des femmes, le fameux MLF.
Manifester pour quoi ?
Pour le droit des femmes !
On fait des trucs que t'as l'impression de pas pouvoir faire juste parce que t'es une femme.
Oui, alors si on veut se référer à des documentaires plus anciens, on peut voir Le fond de l'air est rouge de Chris Marker sur Mai 68, ou pour un versant là fictionnel qui verse un peu dans la propagande Erasmus, il y a aussi la trilogie de Cédric Clapiche, notamment L'auberge espagnole.
T'as commencé là.
Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. Hablas espagnol. Tu connais l'Espagne?
Ouais, je connais un peu Ibiza.
Et alors aux États-Unis, dans la pop culture, le choix de l'université, contrairement à la France, est un vrai enjeu pour les élèves. C'est aussi un enjeu scénaristique, un enjeu d'écriture. C'est toute une cérémonie.
So you're off to Yale?
Your deductive reasoning skills are perfect for a place like Brown.
A place like Brown?
An enclave of Trustafarians and children of celebrities who major in drum circles and semiotics, whatever that is. I can't wait for you to come home next Thanksgiving, a militant veganista, anemic and proud.
Brown is an Ivy League school.
Everyone knows that the only real Ivies are the Holy Trinity. Harvard, Yale and Princeton.
Et dans le film Dear White People de Justin Simien et dans la série du même nom, on suit des étudiants et des étudiantes noires, afro-américains, qui vont réagir à l'organisation d'une soirée à thème blackface organisée par des étudiants et des étudiantes blanches, sans surprise. Et donc, ce film et cette série vont parler du racisme qui existe encore sur les campus américains et de la question de la mixité et de la diversité dans les universités.
Chers amis blancs,
je voulais te dire que j'ai trouvé ton émission agressive.
Posséder un vibromasseur noir ne signifie pas que vous avez une relation interraciale.
Et très polémique.
Quand vous demandez à quelqu'un s'il vient d'une ethnie différente ou tu es quoi, en général, la réponse est une personne qui va te mettre son poing dans la gueule.
Alors cette question-là, elle est généralement traitée avec de très gros sabots en France, notamment dans le film Le Brio d'Yvan Attal, qui suit un prof un peu pygmalion, qui va, avec beaucoup de bonne volonté, aider une étudiante désargentée de banlieue, jouée par Camélia Jordana, en l'initiant à l'art de la rhétorique. Voilà.
Mais moi, je veux rien du tout de vous.
Mon salut est entre les mains de Neila Salah.
Va mourir.
Donc le film serait problématique, moi je ne l'ai pas vu. Voilà, je ne sais pas si c'est la peine de le voir.
Ce que tu dis par rapport à la différence de traitement, de représentation des campus américains et des campus français, je trouve ça effectivement très juste et on voit à quel point aux États-Unis la question du campus, elle est en vérité une question complètement politique, complètement politisée, de la même manière que les librairies sont aussi des espaces très politiques et très très soumis à la discussion, au débat, à la constitution d'un rapport de force. Et ici en France, on est sur une représentation et sur une réalité sociale qui en est effectivement très 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 éloignée, où ce qui prime, ce n'est pas la subversion, mais c'est bien la reproduction sociale telle qu'elle est assurée par ces différents espaces et ces différentes institutions. C'est très, je trouve ça très parlant. Je trouve que la différence est très forte.
Alors dans le domaine littéraire, on peut aussi parler du roman La Tâche de Philip Roth, qui aborde la question épineuse dite du politiquement correct. Moi, j'aime absolument pas ce terme, mais voilà, à l'université. Alors, le pitch est à la fois simple et compliqué. Il s'agit d'un enseignant à l'université qui va utiliser un terme très péjoratif pour parler des étudiants noirs. Il a aussi, en même temps, une relation avec une femme de ménage de l'université. Et tout cela va faire scandale pour ces deux raisons. Or, il va s'avérer que lui-même est en réalité noir, mais passe pour blanc, donc c'est ce qu'on appelle le passing. Et à cela va se mêler également un scandale sexuel, et tout cela faisait écho à l'affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky.
Et effectivement, comme tu le dis, Clémentine, c'est un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, sur lequel il y a eu des débats assez passionnés et contradictoires. On laisse à chacun et chacune l'opportunité de se faire son avis sur ce texte-là de Philip Roth.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf ?
Alors, qu'est-ce qu'on a comme recommandation culturelle cette semaine ?
Alors, pour ma part, je souhaiterais recommander à nos auditeurs et auditrices l'ouvrage de Nabil Wakim. Nabil Wakim, vous le connaissez peut-être, vous connaissez sa signature, il est journaliste au Monde, et il a publié, il y a quelques jours à peine, aux éditions du Seuil, un ouvrage qui s'intitule « L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France », qui revient de manière à la fois intime et détachée, puisque une enquête est au fondement de cet ouvrage, sur son rapport à la langue arabe et sur les multiples situations dans lesquelles le fait de parler cette langue-là et le fait parfois de ne pas pouvoir la parler, du fait de la honte, du fait aussi d'avoir perdu cette langue, qui est sa langue maternelle, puisque Nabil Wakim est d'origine libanaise, comment tout ça, autour d'une langue en particulier, révèle des tensions politiques extrêmement fortes sur le fait de parler arabe en France, mais en creux évidemment, sur le fait d'être perçu comme un arabe en France, et il a des pages très belles sur ce que signifie perdre la langue de sa mère, ne pas assumer publiquement de la parler du fait d'un environnement social qui pourrait juger cette langue comme étant alors tantôt communautaire, tantôt le symbole d'un engagement terroriste avec énormément de guillemets, et comment toutes ces tensions-là sont en vérité produites par une certaine forme d'altérisation très forte d'une langue, et d'une langue en particulier, puisque la question du russe, la question du mandarin, etc., ne pose pas évidemment toutes ces questions-là. Donc c'est une replongée dans des questions linguistiques, mais avec un ton particulièrement vivant, parfois drôle, parfois plus intime. Donc je vous conseille de lire cet ouvrage de Nabil Wakil.
Ça me fait penser à un article de la journaliste Nadia Dam sur Slate, où elle parlait justement de son rapport ou de son absence de rapport à la langue de ses parents.
C'est exactement ça, tout à fait. Donc lisez les deux, lisez Nabil Wakim et relisez Nadia Dam si vous ne l'avez pas lu à l'époque dans Slate. Et toi ?
Alors moi, au risque de vous décevoir, je ne vais pas recommander la série We Are Who We Are sur HBO parce que même si tout le monde en parle, c'est un réalisateur, Luca Guadagnino, que je n'aime pas et je pense qu'il n'a rien à dire. Voilà, donc le sujet est clos. Par ailleurs, s'il y a bien des euphémismes que je déteste, il y a interpellation musclée et il y a aussi le terme acidulé qui désigne donc des objets de pop culture faits pour les femmes et les filles. Par contre, je trouve, hélas, que ce terme s'applique à l'objet que je vais recommander, qui est vraiment très sirupeux, très clichétonneux, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre au 10e degré, puisqu'il est digne des pires épisodes de Sex and the City, et qu'il est justement produit par Darren Star. C'est la série Emily in Paris sur Netflix avec Lily Collins, qui est une sorte de projection mentale de tous les fantasmes des Américains et des Américaines sur Paris, donc avec béret, baguette, clope, crotte et autres Parisien de mauvaise humeur.
Emily Cooper.
Bonjour.
Bonjour.
I got a feeling I'm in trouble when I look at you. I'm Emily, your new neighbor.
Enchantée.
Mais je trouve qu'il y a dans cette série quelque chose de l'éthos américain qui peut rejoindre le nôtre en ce moment. C'est le point de vue sur les rapports de genre, et pour une fois, il y a un dialogue qui peut-être peut être fructueux entre ces deux pays sur la question de MeToo. On voit dans la série donc cette jeune femme qui travaille dans le marketing et qui est nommée à un poste à Paris. Sa chef est donc la maîtresse d'un client de la boîte. Ce client offre à cette jeune fille de la lingerie. Un garçon avec qui elle sort lui dit qu'il aime la chatte américaine. Enfin voilà, toutes ces conduites qui sont présentées comme de la galanterie à la française et qui sont là vues d'un point de vue extérieur, peut-être qu'elles peuvent nous aider à voir, à mieux comprendre pourquoi elles sont problématiques dès lors qu'elles ne sont plus montrées comme étant naturelles. Moi, je trouve que voilà, il y a quelques scènes qui sont assez bien observées, même si l'ensemble est assez ridicule. J'ai éprouvé pas mal de plaisir, hein, peut-être un plaisir coupable, à regarder cette série. Peut-être que voilà, on est toutes devenues des Américaines collées montées, je ne sais pas. En tout cas,
mais je pense qu'on est de nombreuses Parisiennes à vouloir se dire, je serais d'autant plus Parisienne si je savais que je pouvais parfois quitter Paris et retrouver une vraie vie ailleurs, fût-elle aux États-Unis. J'ai pas encore regardé la série, j'ai eu beaucoup de critiques négatives, mais celle-là que tu viens dénoncer, c'est la première fois que je l'entends, donc je vais peut-être effectivement regarder cette scène dont tu parles avec plaisir.
Ouais, tu m'en diras des nouvelles.
Allô, allô.
Allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Cette auditrice nous écrit alors. Quand j'étais au lycée, j'avais cette amie qui était, pour ainsi dire, la reine des abeilles. Elle se moquait de nos poils, nous faisait remarquer nos prises de poids, et un jour, elle m'a traitée de traînée, et elle me faisait la morale sur ma vie sexuelle, car je n'avais pas de copain fixe, et plutôt plusieurs partenaires à cette époque. En gros, le patriarcat. C'était elle qui nous rappelait constamment à l'ordre. Aujourd'hui, cette fille travaille et elle poste très souvent sur les réseaux des vidéos féministes, des messages de tolérance, des posts engagés contre le fameux patriarcat. Je sais bien que le féminisme n'est pas une chasse gardée, et c'est très bien que les choses changent. Mais j'ai beaucoup de mal à croire dans la sincérité de ce nouvel engagement, et mon poil s'hérisse dès que je la vois poster des choses comme ça, quand aucune remise en question n'a été faite. Bref, comment réussir à pardonner, accueillir ces personnes ? Faut-il simplement se réjouir du changement ou, au contraire, aborder une position critique ? Clémentine, quel est ton avis ?
C'est un très bel exemple de sexisme intériorisé hein, et de maintien de l'ordre par les femmes entre elles. Moi, je pense qu'on n'est pas Jésus, hein, on n'est pas obligé de pardonner à tout le monde. Mais j'ai deux avis donc, sur ce genre de cas de figure. Déjà, moi, je pense qu'au point où on en est, c'est-à-dire ce n'est pas encore le grand soir, on n'en est pas encore à l'égalité, en attendant, tout est bon à prendre, c'est-à-dire les hommes qui me tiennent la porte, je prends. Les débiles qui s'approprient le féminisme, pas de problème, je prends. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Très bien. Ensuite, néanmoins, pour conserver sa santé mentale, moi je recommanderais de ne pas trop s'attarder quand même sur les personnes opportunistes qui sont reconverties à la cause il y a 5 minutes. On les voit, on sait qui c'est, on les connaît, toi-même tu sais, voilà. Je pense que ça peut nous donner un ulcère sinon. Donc moi je pars du principe que, en fait, on n'y peut rien. Et quand on n'y peut rien, il vaut mieux ignorer. Donc, next. Voilà, ça c'est ma politique. Après, chacun fait comme il veut. Si toi, tu préfères lui écrire pour qu'elle fasse son mea culpa et lui rappeler « Coucou, tu te souviens de la police du poil ?» C'est possible. Voilà, après, il faut faire ce qui est bon pour soi. Voilà.
Très bien, super.
Bon, j'espère qu'on a fait le tour de la question universitaire. On attend avec impatience des mobilisations à l'automne autour de cette nouvelle réforme. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast pour nous aider à être référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court dans lequel on parlera de génie lesbien. Merci, salut Kaouta.
À bientôt Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Kaouta Archi.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son, montage et coordination Ashley Tola.